Correspondance de Louis Pergaud du 28 juillet 1914 au 7 avril 1915. À Joseph Chevenet. Nous sommes un peu ici sur des charbons ardents. Qu'est-ce qui va sortir du conflit actuel? Et je dois partir dès le deuxième jour de la mobilisation avant 8 heures pour Verdun, aux premières loges. Tu parles. La patrie compte sur moi. Si je lui rendais un peu tout le bien qu'elle m'a fait par ses juges, magistrats et vautours de tout acabit. À Jules Dubeau, 29 juillet 1914. Comme les événements ne sont pas plus que ça rassurants, et qu'il n'est pas impossible que nous ayons un conflit, ce qui ne serait pas autrement drôle, vous seriez bien gentil de m'expédier d'urgence en colis postal à domicile mes croquenots de chasse qui peuvent m'être nécessaires s'il fallait rejoindre mon poste en cas de mobilisation. Le père voudra bien au préalable les vérifier sous toutes les coutures et les ferrer partout solidement. Je compte donc que vous confierez ce soir même à Gruet le colis contenant mes souliers avec recommandation expresse de les faire partir d'urgence. Vous les mettrez dans la caisse que Delphine vous a envoyée dernièrement et vous pourrez parfaire le poids avec 1 kilo de beurre et du gruyère que vous entourerez soigneusement de papier épais pour que le parfum des godillots ne déteigne pas trop sur leur arôme personnel. À part ça, nous allons bien. J'ai terminé mon livre « Les rustiques » et j'en remettrai demain à Valette le manuscrit. Ça apparaîtra en octobre si les paysans du Danube ne nous obligent pas à leur botter le cul pour leur apprendre à emmerder l'honnête peuple de France. Dernière nouvelle, on parle d'un rappel de 4 classes pour commencer, mais ça ne change rien et on persiste à n'être pas trop optimiste. J'espère en mes brodequins comme les Juifs en le Messie. Nous vous embrassons très fort. Au même, Paris, 31 juillet 1914. Les événements n'ont pas empiré. Au contraire, il semblerait vaguement que cela se détend. Delphine attendra demain et, selon la tournure que ça prendra, restera ou partira. Ici, il y a des moments de panique auxquels succèdent des heures calmes, mais en général, on croit que cela ira mieux. Hier, je suis allé à la banque voir Machard. Il y avait une foule contenue par les agents qui s'écrasaient aux portes. Beaucoup n'ont pu entrer. Tous ces gens-là voulaient de l'or contre leurs papiers. Impossible de changer 50 francs chez les commerçants. Aujourd'hui, on va avoir des billets de 20 francs et de 5 francs. Inutile de vous dire que nous avons suffisamment de monnaie pour attendre que l'argent et l'or ne se cachent plus. Enfin, à demain, une autre lettre ou le départ de Delphine qui vous raconterait en détail tout ce qui s'est passé ici. Au même, Paris, samedi 1er août 1914. Delphine a changé d'avis, elle ne part pas, du moins pas immédiatement. Il est à présumer d'ailleurs que même si elle le voulait, elle ne le pourrait pas. On pensait déjà, hier soir, que le décret de mobilisation serait affiché cette nuit. Pourtant, ce matin, rien encore n'avait paru. Mais on disait que ce serait pour midi ou certainement dans la journée. Déjà, paraît-il, toutes les classes, jusqu'à celles de 1900 comprises, auraient été convoquées à Nancy et aux environs. Il est certain que la situation n'a jamais été aussi tendue et aussi menaçante. Pour comble de malheur, un misérable, un sale camelot du roi, une fripouille stupide, a assassiné Jaurès hier au soir, en lui tirant 3 coups de revolver par derrière. Il est mort sur le coup, et l'émotion est intense, car avec ce grand citoyen, qui était vraiment le meilleur des hommes et le plus éclairé des patriotes, disparaît un des meilleurs conseillers du peuple de France, un des plus vigilants gardiens de la paix du monde. C'est un crime sans nom qui me bouleverse et me révolte. Jamais, dans les époques de crise comme celles que nous subissons aujourd'hui, on n'a tant senti le besoin de se serrer les coudes, et c'est justement à l'heure où le Parti socialiste, tout en faisant pour la paix des efforts désespérés, se solidarise nettement avec le reste de la nation et fait trêve aux haines politiques qu'on égorge lâchement son chef vénéré. Il y a de quoi hurler, non tant contre l'idiot dont le bras agit, mais contre les lâches provocateurs qui, dans d'immondes feuilles de chantage, propagent les plus abominables calomnies contre les honnêtes gens et poussent les faibles d'esprit à des actions aussi épouvantables que celles-là. Vous savez sans doute qu'on a intenté des poursuites contre Paris Midi et son directeur pour propagation de fausses nouvelles très alarmantes. Ce directeur, à peine naturalisé français, a nommé « Kartoffel », mot qui signifie en allemand « pomme de terre »,« patate » si vous aimez mieux, signe de « Walef ». Chaque jour, à midi, il déverse sur les militants socialistes et radicaux les plus immondes calomnies et fait étalage d'un patriotisme aussi tapageur que peu sincère. « À l'instant où je vous écris, 10h30 du matin, je n'ai pas encore reçu mes souliers. » Sans doute que les gens de Valdaon ou Versailles n'ont pas mis la même diligence que vous à me les faire parvenir. 2 heures de l'après-midi. Le colis n'est toujours pas arrivé, mais déjà une partie des réservistes ont reçu leur ordre d'appel individuel et je me suis muni. La crise économique passe à l'état aigu. Au marché aujourd'hui, il était impossible de se procurer des pommes de terre. Les gens font la queue aux portes des vendeurs de comestibles. Les grands magasins ont vendu tous leurs légumes secs et toutes leurs pâtes. Néanmoins, cela n'a pas augmenté, il est encore possible de tout se procurer. D'ailleurs, Delphine a des provisions d'avance et Paris ne manquera pas de vivre. Au même, Paris, dimanche 2 août 1914. Ainsi que je vous le disais dans ma lettre d'hier, qui ne vous est probablement pas parvenue aujourd'hui, Delphine n'est pas partie. L'eût-elle voulu d'ailleurs que la chose eût été impossible. Une foule extraordinaire faisait queue au guichet de toutes les gares et beaucoup, paraît-il, ont dû camper dans les halls en attendant des trains qui ne partiront peut-être pas. Demain, à 8 heures, comme le comporte mon fascicule de mobilisation, je partirai pour Verdun. La population parisienne reste calme, chacun résolu à faire son devoir. Socialistes, syndicalistes et anarchistes marcheront. Gustave Hervé, réformé, a demandé comme faveur spéciale au ministre de la guerre de partir aussitôt à la frontière avec le premier régiment d'infanterie qui sera envoyé là-bas. L'Angleterre est avec nous, l'Italie est neutre. Ah, les conditions sont excellentes et j'ai reçu mes croquenots. Je ne prétendrai pas que le destin de la patrie était intimement lié à leur arrivée, mais il me plaît d'interpréter l'événement comme un bon présage. Hier, dans les escaliers de l'hôtel de ville, j'ai failli me casser la gueule en glissant avec les autres. J'allais justement porter votre lettre à la poste et je descendais avec Brousson du Gil Blas. Il était 4 heures, nous nous étions attardés quelques instants à causer dans le hall et c'est juste à ce moment que le receveur est sorti avec la dépêche portant ordre de mobilisation générale. J'aurais trop de choses à vous dire encore, chers parents, et je ne sais par quel bout m'y prendre. Ça bouillonne, et nous vivons des minutes d'énervement et de fièvre. À bientôt, je l'espère. Il paraîtrait que dans 6 semaines, tout serait réglé, mais sait-on jamais. À Marcel Martinet, Paris, dimanche 2 août. Adieu les vacances, c'est Verdun pour commencer que je m'offre demain pour villégiature sans frais. Oh, tu sais, je pars de bon cœur, j'ai suivi les événements, je ne dis pas sans fièvre, mais avec beaucoup de calme et de sang-froid. Nous avons voulu passionnément la paix, mais à Berlin, on veut la guerre. Jamais je n'accepterai la botte du Kaiser. J'avais de la rage au cœur tous ces jours-ci contre les camarillas de canailles qui faisaient pleurer les femmes et tant pis pour ceux qui se trouveront devant mon fusil. Ma femme reste ici jusqu'à ce qu'elle puisse rejoindre son père en Franche-Comté. Tâchez, toi et ta femme, de venir la voir de temps à autre. Elle est résignée et courageuse, mais je sens que la séparation lui sera rude. À Lyon-Hénic, Paris, dimanche 2 août 1914. Voilà que ça y est, et demain matin je serai en route pour Verdun, où ma feuille de route m'appelle en villégiature passagère. Ma femme, bien que désolée, accepte l'épreuve avec résignation et courage, et moi, n'était le fait de la laisser seule ici, je partirais avec joie. Comme tout a été digne et grave, j'en suis ému profondément, et j'ai confiance. Jamais la partie ne s'est présentée si belle. Nous avons pour nous le droit d'abord, nos canons et la flotte anglaise, et puis la foi et ce vieil amour de la terre de France qui vient de rejaillir éclatant et pur de partout. Mais l'heure n'est pas venue de faire des phrases, il faut faire son devoir tout simplement et on le fera. Je vous embrasse de tout cœur, mon cher ami, mon cher maître, et j'espère bien le faire effectivement après la campagne. Louis Pergaud, sergent, 29e compagnie du 166e d'infanterie. Mes hommages bien sincères à Mesdames Hénic, ma femme vous envoie ses meilleures amitiés. Elle restera ici jusqu'à ce qu'elle puisse partir en comté. Je n'ai pas besoin de vous la recommander, je sais ce que vaut votre cœur. À Delphine, de Reims à Verdun, le lundi 3 août 1914. Me voici embarqué avec 6 autres camarades dans un confortable wagon de 3e classe aux coussins rembourrés avec des noyaux de pêche, par exemple. Mais je suis près de la portière et je puis contempler le paysage, cette admirable campagne de l'île de France et de la Champagne. Nous avons passé par Soissons, où nous avons laissé une partie de notre contingent qui rejoignait le 67e. Nous marchons assez lentement et nous n'arriverons guère à Verdun que vers ce soir, sans doute. Je n'ai jamais vu un tel enthousiasme. Tout le monde part avec le désir de faire son devoir et je crois qu'on le fera. Sur la route, le long des voies, les gosses, les femmes et les vieux nous envoient des saluts et des baisers. Les voies sont gardées par des vieux territoriaux, touchants dans leurs costumes mi-civil, mi-militaire, baïonnettes au canon et souriant dans leur barbe grise. Ici, à Reims, les trains sont bondés de gens qui partent, et qui ne crient pas trop du moins, car l'énervement de la foule et les litres ingurgités échauffent un peu les langues. On entend chanter la Marseillaise et crier « Vive la France !» C'est en poignant, malgré tout. Je viens de déjeuner, très confortablement, de 2 œufs, d'une tranche de roast beef, d'une pêche et d'une grappe de raisin, que j'ai mangé en pensant à la bonne petite gosse qui m'avait préparé tout ça. Pauvre chérie, ne t'inquiète pas, et surtout, ne te fais pas de bile si tu ne reçois pas de lettre tout de suite. Il ne sera pas commode, tant que durera la mobilisation, de faire marcher des wagons-postes. Je te promets, dès que j'aurai une minute, de te mettre 2 mots, quitte à les donner à la poste quand se présentera l'occasion. Une grande fraternité règne. Les officiers et les hommes causent entre eux familièrement. Il y a contre Guillaume une haine farouche et, dame, si nous entrons là-bas, il pourra y avoir pour lui et son peuple un peu de grabuge. Ah, quel beau pays que cette Champagne, champs plantureux, quelques arbres fruitiers et des bois si verts. Ah, les bois de l'Andresse et les lièvres dont Free me parlait. N'oublie pas de caresser Toto et de l'embrasser pour moi. Si nous allons en Allemagne, je lui rapporterai une patte de lapin et un bouchon. À la même, mardi 4 août. Nous sommes arrivés hier soir vers 11 heures à la caserne Chevert, à 5 kilomètres environ en avant de Verdun, et aujourd'hui on nous habille. Pour l'instant, c'est la vie de caserne, point désagréable du tout. J'ai un lit où j'ai passé une excellente nuit, donc rassure-toi, il n'y a aucun danger et nous sommes en avant formidablement protégés. Un aéro vient de passer au-dessus de nous, salué de vivas joyeux. Chacun est calme et tout disposé à faire tout son devoir. N'était le temps, il pleut, mais c'est surtout désagréable pour l'actif qui occupe les tranchées et les villages fortifiés en avant, tout serait parfait. Si le temps est mauvais pour nous, il ne l'est pas moins pour les enfiffrés de Guillaume, et je suis persuadé qu'ils ne supporteront pas la chose d'un si bon courage que les gars de France. À la même, Verdun, mercredi 5 août. Le message de Poincaré que l'on vient de lire aux hommes a été salué par les cris de « Vive la France !» Et ce n'était pas une vaine acclamation de 14 juillet, enluminée de soleil et de vin, ça partait du cœur. La nourriture est excellente et saine, l'eau est délicieuse. Je peux me laver tous les jours et je suis vigoureux comme un chêne cinquantenaire du Tuchevet ou du Failly. Le site que nous avons sous les yeux est superbe et les couchers de soleil y sont merveilleux. Et Toto, comment supporte-t-il la vie actuelle? À la même, vendredi 7 août 1914. J'ai réussi à dénicher un peu d'encre et j'en profite pour t'écrire plus longuement. Nous sommes encore à Verdun, où nous formons le bataillon de dépôt destiné à être appelé sur la ligne d'opération lorsque des vides trop nombreux auront été faits dans notre régiment. Le 166e vient de partir en avant, mais il n'est pas en première ligne et il est bien possible que nous ne soyons envoyés qu'assez tard sur la ligne d'opération. Toute l'active et les premières classes de réserve sont en avant de nous, et nous ignorons tout à fait ce qui se passe à la frontière. Nous savons seulement que tout va bien et qu'il y a bon espoir. Jusqu'ici, ce n'est pas pénible. Évidemment, on se lève à 3h30 et on se couche à 8h, mais j'ai une paillasse, un matelas, une couverture et un polochon. Pour pouvoir me déshabiller, j'ai pris au magasin une paillasse neuve que j'ai décousue en partie pour en faire un sac à viande. Je dors là-dedans comme un roi. Il n'y a que toi qui me manque, mais je suis sûr que tu supporteras courageusement la séparation et que nous nous reverrons bientôt. Le service du ravitaillement se fait très bien. Nous mangeons une viande succulente et des haricots nourrissants et pas mauvais du tout. Pour changer, on a du riz. Les troupes qui sont en avant dans les tranchées sont, paraît-il, encore mieux que nous, sous le rapport de la nourriture. Que demander de mieux en campagne? Je suis vêtu de neuf, j'ai de bons souliers, je n'attends, comme les camarades, que mon tour de marché. Nous instruisons les hommes, et cela va rapidement. Chacun y met de la bonne volonté, encore que nous ne soyons absolument que des réservistes. La compagnie est forte de 240 hommes, parmi lesquels il y a 16 sergents, ce qui réduit à une escouade le commandement de chacun de nous. Cependant, tour à tour, nous prenons le commandement de la section, et je n'aurais jamais cru que je m'en tirerais si bien. Tous les jours, nous voyons s'élever des avions sortant de leur hangar à Verdun et passer sur nos têtes, et les jours coulent un peu longs de cette inaction guerrière et de ce manque de nouvelles. À la même, dimanche 9 août 1914. Nous avons quitté hier la caserne Chevert pour venir à Jardin-Fontaine, à 2 pas de Verdun, et laisser la place aux chasseurs du 56e. Mais nous sommes toujours bataillon de dépôt, attendant notre tour de partir. Ici, à Jardin-Fontaine, la vie est ce qu'elle était à Chevert, assez uniforme. Quant aux nouvelles, elles sont très bonnes, mais il ne nous est pas possible d'en avoir confirmation. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un élan magnifique et un entrain irrésistible. On ne tue pas un peuple qui se lève pour se défendre quand il est animé d'une ferveur aussi belle. Je tâcherai de t'envoyer tous les jours ou tous les 2 jours un petit mot. Je suis absolument remis de ma chute, je mange bien, mais nous ne buvons que de l'eau et tout l'or du monde ne ferait pas sortir du vin de terre. Tous les débits et les cantines sont fermés, les liquides et les comestibles recensés, c'est très bien ainsi. L'heure n'est pas à se saouler, même par amour de la patrie. Si tu peux m'envoyer de petites coupures de journaux dans tes lettres, cela me fera bien plaisir, car nous n'avons de nouvelles que celles que nous rapporte le cycliste de la compagnie qui va les lire à la porte de la sous-préfecture. À la même, lundi 10 août 1914. Entre deux exercices, je profite pour t'envoyer un mot. Hier, je t'ai annoncé notre arrivée à Jardin-Fontaine, près Verdun. Nous en repartirons incessamment pour gagner les lignes plus avancées et continuer les tranchées. Pour l'heure, nous continuons l'instruction des hommes et nous travaillons à décharger en gare de Verdun des sacs de farine et des obus. D'autres sont partis pour aider le génie à deramer. Bref, les travaux d'approche de Verdun sont presque impossibles à l'ennemi, si toutefois il a le temps de venir de notre côté. Les événements nous diront cela. J'ai reçu hier soir tes lettres de lundi et de mardi, et tu ne saurais croire combien cela m'a rassuré. À la bonne heure, j'ai une petite femme très courageuse et vaillante, et j'en suis fier. Sois tranquille, va, ma chérie, je te reviendrai, un peu tanné, un peu cuit, mais plus résistant. J'ai profité ce matin de ce que nous avions de l'eau pour laver ma chemise, ma flanelle, des mouchoirs et mon caleçon. Je n'ose dire que c'est parfait, mais c'est très bien puisque moins sale qu'avant, c'est même très blanc. J'ai trouvé une cuvette et un petit bout de planche et du savon qui m'ont beaucoup servi dans cette besogne. Nous avons un temps superbe et un soleil de feu, mais pour l'instant je goûte l'ombre et le frais, selon le vœu du poète, dans une chambrette agréable, en compagnie de camarades charmants et très bien élevés. Chacun s'arrange de son mieux et j'ai le meilleur espoir en la victoire future. » À la même, mardi 11 août 1914. « Nous sommes aussi bien que possible. Peut-être partirai-je bientôt pour l'ouvrage de Ramey, à 12 kilomètres d'ici, pour construire des tranchées et coopérer avec le génie à l'établissement d'abris confortables. Comme sergent, je ne fais que diriger et aider. Depuis que j'ai payé hier 5 litres à mes 12 hommes, ils se feraient hacher pour moi. Nous sommes tous copains, d'ailleurs. Peut-être aussi sera-ce un autre. Je te préviendrai. Mais là-bas, pas plus qu'ici, je ne cours aucun risque, et nous avons en avant de nous les troupes de couverture. D'ailleurs, la grande attaque, contrairement à ce que je pensais à mon départ de Paris, n'a pas l'air de vouloir se faire sur Verdun, et il me semble que nous aurons plus à attaquer qu'à défendre. N'empêche que toutes les précautions sont prises, et que si l'on veut tâter de la qualité des pruneaux qui garnissent nos cartouchières, on les trouvera sans doute indigestes. Les troupes de Belfort, qui sont entrées à Mulhouse, ont dû certainement souffrir plus que nous, et je me demande avec inquiétude ce que Lucien, Joseph et Maurice sont devenus dans la terrible boucherie qui a dû ensanglanter les plaines d'Alsace. Bah, il ne faut pas y penser et espérer que leur bonne étoile les aura protégés des éclats des shrapnels ainsi que des balles. Il semble bien jusqu'à présent que les Teutons n'aient éprouvé que des échecs. Liège a été pour leurs troupes le lieu d'une terrible hécatombe, et je n'aurais jamais cru que ces braves Belges se défendraient avec le courage et le talent militaire qu'ils ont montré. Il fait une chaleur torride, le ciel est d'un bleu profond et les alentours verts comme notre espérance. À la même, jeudi 13 août 1914. Hier, j'étais incapable de t'écrire. J'étais tellement éreinté, assommé par la chaleur et la fatigue que j'ai passé sur mon matelas les heures de repos. Car en attendant l'heure, qui ne saurait guère tarder maintenant de reformer avec les gens valides du dépôt une compagnie de marche, nous passons, qui les journées, qui les nuits, à décharger du blé et à rouler des tonneaux. Tous les jours, la 29e compagnie voit diminuer son effectif qui part, par petites fractions, achever, former de nouvelles unités. Aujourd'hui, on vient de nous dire de nous tenir prêts d'une minute à l'autre. Je t'aviserai immédiatement de ce départ, ce qui ne signifiera pas forcément que je vais me rendre tout de suite sur la ligne de feu. Nous menons en attendant une vie extrêmement pittoresque et, n'était la chaleur assommante, ce serait presque agréable. Tous les jours, il arrive des blessés, mais en général, les blessures sont assez peu dangereuses, les projectiles des shrapnels allemands étant beaucoup moins meurtriers que les nôtres. Même touchés, vois-tu, on conserve beaucoup de chances de s'en tirer. Ainsi donc, rassure-toi, car pour l'heure, je ne risque rien, et pour l'avenir, pas grand-chose. J'ai d'ailleurs foi en mon étoile. Dernièrement, j'ai pu, en compagnie de 2 camarades, visiter Verdun. Quel aspect ! Presque tout le monde a quitté la ville, rien que des troupes et encore des troupes. Quelques femmes avec le brassard de la Croix-Rouge et quelques hommes avec leur brassard de mobilisés. Tout inconnu est arrêté, et si l'interrogatoire n'est pas satisfaisant, mis à l'ombre. La nuit, des patrouilles circulent partout, arrêtent tout le monde. La corvée de cette nuit, qui est rentrée à 3 heures du matin, a été arrêtée au moins 10 fois. À part cela, aucun bruit de canon. Pourtant, on se bat à 20 kilomètres d'ici, du côté de Montmédy. Les territoriaux arrivent, et ce ne sont que chants et clameurs enthousiastes. « On y va ! Ah, bah Guillaume ! À mort ! Ah, le salaud !» J'ai eu un léger mal de gorge à la suite d'un chaud effroi, mais j'ai mis ma chaussette autour de mon cou pour la nuit, selon les vieux principes de ma grand-mère, et aujourd'hui, cela va très bien. Je me suis procuré une petite gourde recouverte d'osier, que j'ai rempli de rhum sucré pour les moments critiques. Mon bidon est bon, ma musette solide, mon sac neuf, et je me sens de vrais pieds de fantassin. À la même, samedi 15 août 1914. Je suis dans une caserne à l'heure actuelle, bien couché, bien nourri. J'occupe avec 2 camarades une petite chambre tout à fait agréable, avec une vue superbe sur les champs. Des couchers de soleil magnifiques nous sont offerts gratuitement et nous avons également le défilé des troupes sur les routes voisines pour égayer nos yeux quand nous sommes chez nous. Malheureusement, nous n'y sommes pas toujours et cette nuit, j'ai été réveillé à 2 heures du matin pour conduire une corvée à 8 kilomètres d'ici, à Chevert. Nous rentrons pour la soupe que l'on mange de bon appétit, comme tu peux penser, d'autant que maintenant, l'ordinaire ne se réduit plus au riz et aux haricots et nous avons des pommes de terre, des carottes et des choux. Nous buvons du vin et je gagne par jour 72 centimes, tout frais de nourriture déduit. Mince de journée. Je me suis acheté divers accessoires de toilette ou autres objets utiles, une paire d'espadrilles pour me délasser les pieds, des lunettes noires pour les marches sur les routes poussiéreuses, une cravate toute faite, etc. La vie, somme toute, n'est pas pénible, elle est même des plus confortables. À la même, lundi 17 août 1914. Ici, à Jardin-Fontaine, les ordres se succèdent avec une foudroyante rapidité. Après avoir pensé partir, puis reçu l'ordre de rester, on vient à nouveau de recevoir l'ordre de se tenir prêt à partir, le sac bouclé, l'équipement monté et un repas froid dans la musette. Avant-hier, en ramenant au quartier mes 40 poilus, avec qui j'avais déchargé des wagons de foin, j'ai trouvé un fer à cheval à 7 trous, que j'ai précieusement ramassé, comme vous l'oubu partant en guerre, et que j'ai rapporté à la main, ne pouvant le passer comme ce digne compatriote dans la bande de ma gargasse. Il pleuvait d'ailleurs à verse, et il est impossible de te dire la hauteur de boue qui salit les routes. Ce n'est pas étonnant après les flots de poussière qui roulaient derrière les autos et les canons en marche. C'est devant nos fenêtres un incessant défilé de convois de troupes. Des blessés et des prisonniers reviennent chaque jour et chaque jour revient un canard enjolivé de fantaisie. Hier c'était celui-ci, un régiment prussien cerné dans une forêt refusait de se rendre. On allait foutre le feu à la forêt et un loustic ajoutait « après l'avoir arrosé de pétrole ». Je regrette de n'avoir pas, au jour le jour, noté tous ces bruits. J'en oublierai certainement, et des plus drôles. Mais souvent la fatigue est si forte qu'il est impossible de songer à prendre la plume ou le crayon. À la même, mardi 18 août 1914. À l'heure actuelle, la grande bataille doit être engagée, et notre régiment, qui, si les Allemands avaient réussi l'attaque brusquée qu'ils préméditaient, aurait été sans doute des premiers à recevoir des coups, se trouve, par la marche des événements, en arrière de l'action, ce qui retarde l'heure à laquelle nous entrerons dans la carrière. Quand les autres n'y seront plus, notre tour commencera, et il est à présumer que ce sera peut-être moins rude qu'au début, les ennemis se trouvant déjà sans doute démoralisés et épuisés. Cette bataille sera probablement unique dans les annales du temps, et je ne voudrais pas ne pas y prendre part. J'ai la plus vive foi dans mon étoile. Aller au feu n'est pas si terrible. J'ai vu des camarades qui en sont revenus. Il leur semblait vraiment qu'ils ne faisaient rien d'autre que ce qu'ils avaient déjà réalisé au cours des manœuvres. Et puis, la vie que nous menons ici, avec les corvées exténuantes et son attente énervante, est moins agréable sans doute que l'existence que doivent vivre ceux qui sont dans les tranchées ou aux avant-postes. Verdun est une jolie petite ville, fort vieille et fort coquette. Les maisons qui sont sur la Meuse me font penser à Ornan, et de leurs fenêtres, les riverains peuvent pêcher à la ligne. Voilà qui ferait la joie du papa du Beauce. À la même, jeudi 20 août. Rien d'autre dans notre situation actuelle. Nous sommes toujours à Verdun, et si cela continue, il est à prévoir que nous serons plus exposés à la dysenterie et aux microbes qu'aux bases allemandes. T'avouerai-je que cela m'ennuie un peu? Rien de plus énervant que l'existence que nous menons, toujours prêt à partir et toujours rester. Je sais bien que tu seras contente de me savoir ici, en sûreté, derrière la large et puissante ceinture de fort qui nous protège. Tout de même, secrètement, ce n'est pas ce que nous avions rêvé, mes camarades et moi. Nous comptions être les premiers à la frontière. Je commence à penser que si nous avançons en Allemagne, combien j'espère, ce ne sera que comme troupe d'occupation et que le gros de la besogne aura été accompli par les gars de l'active et les premières troupes de la réserve. Rassure-toi donc, ma chérie, tu as de fortes chances de me revoir en bon état, surtout si cela persiste. À la même, lundi 24 août. Hier, toute la journée, le canon a tonné. Il y a eu, à 15 ou 20 kilomètres en avant de nous, un engagement assez sérieux, et hier et toute la nuit, jusqu'à 2 heures du matin, ça a été une arrivée ininterrompue de blessés. Quel triste spectacle! Et pourtant, combien réconfortant! Ils avaient devant eux des forces 10 fois supérieures et ont dû reculer légèrement, hachés par les mitrailleuses, après avoir chargé à la baïonnette sur de fausses tranchées garnies de silhouettes avec des casques à pointe. J'ai causé longuement avec quelques-uns, de tout jeunes gens, presque des gosses. Ils ont vu tomber leurs camarades, ils ont vu la mitraille faire des trous à côté d'eux, ils sont tombés et ne demandent qu'une chose, guérir vite pour repartir. Vraiment, devant tant de calme simplicité et de naturel héroïsme, nous étions vaguement honteux, mes camarades et moi, de n'avoir pas été de l'affaire. Oh, notre tour viendra, mais vraiment, c'est une question de chance uniquement. L'un d'eux me disait, c'est drôle, je voyais tous mes camarades tomber, j'entendais siffler les balles et cracher la mitrailleuse et je n'ai rien reçu. Un autre tombé avec une balle au mollet et des éclats d'obus à la figure dit avoir vu des sous-officiers allemands achever des blessés à coups de revolver. Quelle canaille et quelle brute! Dans les villages en avant de nous qu'ils ont réussi à occuper, ils ont tout brûlé, pendu des jeunes gens de 16 à 17 ans, égorgé les femmes. On disait même qu'ils avaient arraché le sein à une jeune mère qu'ils voulaient obliger à tuer son enfant de ses propres mains. On comprend l'exaspération et la rage de ceux qui d'assez près ont pu assister à ces actes de férocité, et combien il sera difficile au gradé de les rappeler au sentiment d'humanité envers eux s'ils sont vaincus. Rien n'est respecté par les Prussiens, car on dit que les Bavarois et les Saxons ne sont point inhumains. Les ambulances, ils y mettent le feu, les vieillards, les femmes, les enfants, cela ne compte pas. Ils ont conscience vraiment que tout est fichu pour eux s'ils ne sortent pas victorieux de l'épreuve. Et comme ils sentent la partie, sinon perdue, du moins très mauvaise, ils usent de tout. Mais cela ne leur portera pas bonheur. Il est nécessaire, il est urgent de détruire jusqu'à la dernière pierre et jusqu'au dernier individu cette race de vipère qu'est la race prussienne. L'avenir de l'Europe et du monde dépend de cette destruction. Nous ne faillirons pas à cette tâche. Les Russes avancent, paraît-il, à grands pas. Encore quelques jours et nous verrons de grandes choses. Du moins, je veux l'espérer, car il est impossible que la France et la civilisation humaine soient anéanties par des hordes, si bien organisées soient-elles, de misérables sans cœur et sans âme. Je vais te quitter, ma bien chère petite. Demain, je t'écrirai encore et toutes les fois que je pourrai. J'ai reçu aujourd'hui une carte de ce bon Léon Hennick. Il me dit qu'il m'avait déjà écrit une lettre, mais elle ne m'est pas parvenue. À la même, mercredi 26 août. Je reçois à l'instant tes 2 lettres du 24 et je suis désolé de t'avoir fait de la peine. Toutes mes pensées, tout mon cœur, petite femme bien-aimée, vont à toi, sont à toi, et c'est précisément ce qui peut expliquer l'état de tristesse, d'énervement dans lequel j'ai été pendant les 4 malheureux jours où rien ne m'est parvenu. Les lettres que tu m'écris viennent aussi vite que les cartes, mais quand tu n'auras guère de temps, envoie une carte. Pourvu que je vois un mot, un simple petit mot de toi, et j'ai du soleil au cœur pour toute la journée. Évidemment, je préfère une lettre. Je comprends tellement ça que le jour où, malade, j'ai failli rendre mes tripes, je t'ai régulièrement écrit, et je continuerai de le faire tous les midis, jusqu'à ce que je quitte Verdun, ou alors il faudra que j'attende l'occasion propice. Notre régiment est sur les lignes depuis avant-hier, et bien qu'il n'ait pas encore pris au feu une part active, il se pourrait qu'avant peu il devienne nécessaire de combler les vides. Il paraît que notre colonel a été tué hier d'une balle dans l'œil. Une imprudence. Cet homme était intrépidement brave. Nos soldats se trouvaient dans les tranchées, bien abrités, prêts à une défense vigoureuse. Il y est venu et aurait pu se contenter, comme eux, d'observer sans être vu. Froid, calme et grave, il a monté sur la tranchée, il a pris sa lorgnette pour examiner le terrain en avant. Le résultat ne s'est pas fait attendre et bientôt le vieux brave a été allongé, raide, à côté de ses hommes. Évidemment, ce n'est qu'un des 1001 incidents de cette terrible campagne et devant l'ensemble, cela ne doit pas compter. Nous avons eu ce matin des nouvelles de Paris. Un numéro du matin d'hier est parvenu, je ne sais trop comment, et nous l'avons dévoré. Nous savions déjà à peu près ces choses-là. Je vois que Paris est renseigné comme nous. Par conséquent, je ne puis te donner que des anecdotes que nous ont contées les blessés que nous recevons. En général, leurs blessures, même graves, ne mettent jamais leur jour en danger. On est aussi raide, et alors on ne souffre pas, ou bien on en est quitte pour une balle dans la patte ou dans le bras qui vous immobilise. J'ai envie d'acheter ici un petit Browning, car si j'étais blessé et qu'un Boche vienne m'achever, j'aimerais assez lui brûler la gueule avant de mourir. Envoie-moi dans une lettre recommandée un billet de 50 francs, ou mieux, un mandat télégraphique dont tu garderas soigneusement le talon au cas où il ne m'arriverait pas. Au demeurant, envoie-moi 100 francs, car si nous restons encore quelque temps, j'entamerai forcément ma petite réserve d'or que je voudrais conserver intacte pour entrer en campagne. À la même, Verdun, jeudi 27 août. De forteresse, notre régiment deviendrait régiment de marche. En tout cas, quelques compagnies, mais pas la mienne, ont déjà écopé légèrement, très légèrement. La plus grosse perte est le colonel tué, comme je t'ai raconté hier sur une tranchée, par imprudence. Le moral un peu abattu redevient solide. Le 15e corps qui avait reculé à Lanneville s'est ressaisi et a racheté sa défaillance momentanée en prenant une offensive vigoureuse. Quant aux artilleurs dont je t'ai parlé, et qui, sans combattre, avaient abandonné leurs pièces, il est à croire qu'ils ne seront pas tentés de recommencer. Leur capitaine et deux lieutenants, traduits en conseil de guerre, ont été fusillés pour abandon de poste devant l'ennemi. C'est juste, c'est nécessaire. Dure nécessité, mais tant pis, la France avant tout. Étain, petit chef-lieu de canton, à 17 kilomètres de Verdun, a été partiellement brûlé. Dans les villages plus avancés vers la frontière, ils se sont livrés à des atrocités sans nom. J'ai vu ce matin des jeunes soldats appelés qui m'ont dit que dans leur village, 63 personnes, femmes et enfants, ont été assommées. Le reste a fui en désordre, gagnant Verdun dans des charrettes, emportant quelques hardes, emmenant une vache ou deux. Le pays est déblayé depuis par le 131e, le 165e et le 166e, et aujourd'hui, ces pauvres gens regagnent leur village. J'en ai vu un long convoi défiler. Que c'était triste. Derrière de vieux chevaux, les bons ayant été réquisitionnés, venaient des voitures à échelle et à planches, où des gosses et de vieilles femmes emmitouflées se tenaient sans larmes d'avoir trop pleuré déjà, sans doute, toute la face contractée en un masque tragique de douleur concentrée et muette. Des adolescents suivaient, des vieux, plus placides et graves, marchaient à côté, et les vaches attachées par leurs longes meuglaient longuement, ne comprenant rien sans doute à cet exode désolant. Ah, si nous sommes victorieux, les misérables, ils payeront cher nos morts et nos villages incendiés, et nos blessés achevés, et toutes leurs atrocités. Nous ne les achevons pas, nous ne tirons pas sur les ambulances comme ces bandits qui assassinent nos médecins au moment où ils les soignent. Mon bon petit Riquet, voilà des choses bien terribles, mais n'y pense pas trop pour ne voir que le résultat final et espérer mon retour. À la même, Verdun, samedi 29 août. Je ne t'ai envoyé qu'une carte hier, et aujourd'hui personne n'a encore rien reçu de Paris ni d'ailleurs. Il me tardait pourtant de savoir si quelqu'une de mes lettres t'était parvenue. Je voudrais tant te savoir rassuré. Il est probable que, quelque temps encore, et peut-être pendant toute la durée de la campagne, nous resterons ici pour assurer la défense de Verdun. Nous aurons probablement de petits engagements à soutenir, mais nous aurons toujours à côté de nous, pour nous protéger, les puissants canons des forts. Hier et avant-hier, les compagnies actives de nos régiments ont culbuté les Allemands dans la plaine de la Wèvre, après leur avoir infligé des pertes considérables. La situation générale est très bonne, d'autant que les Russes, qui avancent toujours, vont assurer la défaite de l'ennemi. Je suis complètement remis de mon indisposition et aussi bien portant que possible. Aujourd'hui, nous avons pris le sac par une chaleur de plomb. Ce soir, nous sommes de piquet, prêts à sauter sur nos flingots au premier signal. Ce n'est pas que nous risquons grand-chose, mais il se pourrait qu'un groupe de cavalerie ennemie réussisse par surprise à franchir les lignes et cherchât à venir mettre le feu au faubourg de Verdun pour semer la panique. Pour être prêts à toute éventualité, chacune, à notre tour, les compagnies veillent. Hier, on accueillit aux environs du fort de Charny une patrouille de cavalerie allemande. Quatre hommes qui en faisaient partie ont été oxys, et l'officier qui l'a commandé est blessé et éclopé. Nous leur mijotons, paraît-il, un petit tour qui ne sera pas dans un sac. Un de mes hommes a disparu. C'était l'ordonnance du lieutenant. Il était sorti hier pour promener son cheval, et aujourd'hui à midi, personne ne l'avait encore revu. Une patrouille, envoyée à sa recherche, est revenue sans l'avoir retrouvé. Imprudence sans doute, il a dû aller trop loin et s'est fait pincer. Au milieu de tout ceci, la note gaie, une section du 166e, voyant vaguement dans la nuit des formes s'avancer au coin d'un bois, a tiré et a tué une demi-douzaine de vaches qui paissaient. Autre chose, les Allemands ont une trouille terrible des Turcos et des troupes noires. Deux compagnies de chasseurs ont cru bon de se barbouiller la figure de suie avant le combat. Après avoir avancé au moment propice, elles se sont levées et ont chargé à la baïonnette en hurlant effroyablement. Les Allemands n'ont pas demandé leur reste, et sans même tirer, ils ont tourné bride et fichu le camp au triple galop. J'en passe certainement, et d'excellente. À la même, Verdun, dimanche 30 août. Hier, je t'ai envoyé une lettre et une carte, cette dernière sans indication du lieu d'origine ni rien. Aussi, elle a pu partir le soir, tandis que les lettres attendent 5 jours avant de vous parvenir, que dis-je, avant de vous être expédiées. Ceci pour des raisons sans doute très justes et que nous n'avons pas à approfondir. Dès que ton envoi me sera parvenu, je pourrai narguer les faillots les plus récalcitrants et la bidoche la plus dure. Au demeurant, ici, notre nourriture, si elle n'est pas compliquée, reste abondante et saine. Nous avons du vin à tous nos repas, et du café, quelquefois du chocolat le matin. Maître Raveton, avoué de l'Académie Goncourt et sergent à la même compagnie que moi, excellent garçon, vient préparer de temps en temps, avec la gravité qu'un avoué important peut mettre à cette non moins importante besogne. Je crois bien, mon cher petit, que je vais être obligé d'écourter ma lettre. Il faut que je reconduise de nouveau une corvée, et ce n'est pas drôle du tout. Je préférerais aller au feu qu'aux puces, mais on ne choisit pas et on obéit. Il est probable que d'ici quelques jours, nous irons soit occuper des tranchées, soit renforcer en avant la garnison des forts. Toutes les précautions sont bien prises, et je ne courrai pas plus de risques là que dans la cour du quartier. Au demeurant, je saurais être, comme tout bon chasseur, audacieux et prudent à la fois. À la même, lundi 31 août 1914. Je viens de recevoir ton premier colis. La petite boîte avec tout ce qu'elle contient est en bon état. L'autre suivra, bien certainement. Si tu peux, de temps à autre, m'adresser un petit envoi, cela me fera le plus vif plaisir, car il est impossible ici de sortir, et d'ailleurs, le pourrait-on que ce serait la même chose, car les épiciers et les autres marchands de comestibles n'ont plus rien. Ne sois pas triste, ma chère petite, nous ne sommes pas malheureux ici, et j'espère bien te revoir. Si la séparation est un peu plus longue qu'on ne l'avait pensé tout d'abord, tant pis. L'essentiel avant tout est de sauver la France, et personne, j'en suis sûr, ne faillira à son devoir. Chaque jour qu'on gagne accentue la gêne ennemie. Encore un peu, il faudra bien, devant la menace russe, qu'ils reculent en Belgique. Ce sera pour eux le commencement de la fin. Espérons en ce jour de toute la force de nos cœurs.